Les podcasts du Collège de France, philosophie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous prie d'abord de m'excuser de l'annulation des deux cours précédents. La première, c'est le 19 mars, ne fut pas de mon choix, car, comme vous le savez, à la suite des manifestations de ce jour, le collège fut fermé. J'avais l'intention de vous informer le 19 mars de l'annulation du cours du 26 mars, et si le collège avait eu un système d'inscription en cours avec les adresses courrielles des inscrits, j'aurais pu vous en informer. Comme ce système n'existe pas ou n'existe pas encore, vous avez dû découvrir en arrivant au collège que le cours était annulé. Le cours du 19 mars ne sera pas rattrapé. En ce qui concerne le cours du 26 mars, je le rattraperai en faisant une séance double le 7 mai. Pour l'instant, le plan pour la suite du cours est donc le suivant. Aujourd'hui, je termine la discussion de l'encadrement institutionnel de l'argumentation. Puis, la semaine prochaine, j'aborde le sujet du vote, en parlant d'abord des différentes formes de décision à la majorité, simple, absolue, qualifiée. Puis, il y a les vacances scolaires. Le 30 avril, je reprends, en continuant sur le sujet du vote public, est-ce que c'est un secret, qui fera en quelque sorte un parallèle à la conférence que j'ai faite sur le débat public et le débat à huis clos. Le plan prévu, c'est que le 7 mai, je fais une double séance, donc d'abord en exposant brièvement la théorie des négociations et en passant à la conclusion, la théorie normative des décisions collectives. Mais comme je pense vous l'avoir déjà indiqué, la discussion sur le vote risque de prendre plus de temps que les deux sessions indiquées, puisque la discussion de l'argumentation m'a occupé pendant 5 séances au lieu des 3 prévues, donc le vote pourra également déborder le plan original. Il est donc tout à fait possible que je n'ai pas le temps d'aborder la question des négociations. Et je vous prie de m'excuser de ces modifications constantes du plan, qui s'expliquent d'une part par l'incompressibilité de certains arguments, et d'autre part par l'irrésistibilité de certaines digressions. Je ne pense pas en effet que la recherche de la rigueur soit incompatible avec la recherche d'un certain enjouement. Aujourd'hui, je donnerai donc la dernière des 3 conférences sur l'encadrement institutionnel de l'argumentation. Et je commence par reproduire, si je peux la produire, ou du moins la lire, la liste que j'ai déjà projetée des questions que j'avais l'intention de traiter. Le débat est-il public ou à huis clos? On en a parlé. S'il se fait à huis clos, est-il suivi d'un compte-rendu public? Et si oui, dans quel délai? Quel est l'impact du nombre des participants sur la qualité des délibérations et des décisions? Les membres du comité ou de l'Assemblée ont-ils l'obligation, non seulement la possibilité, d'exprimer leur avis?
Je mets la clé USB.
C'est un ordinateur. Je vais en chercher un autre.
Un autre? Ouais. Bon, c'est surtout un peu plus loin dans le texte
que j'ai des diagrammes, donc ce sera important. Bon, alors je vais simplement lire les textes que j'allais projeter. Et donc, est-il permis de parler d'après un texte écrit et préparé d'avance? L'institution offre-t-elle des incitations aux participants de s'informer? Ont-ils l'obligation de motiver leurs décisions? Quelles sont les modalités de la prise de parole et de l'allocation du temps de parole? Quel est le rôle formel du président du comité ou de l'Assemblée? Le débat est-il sujet à une règle de bâillonnement, gag rule? Y a-t-il des limites à l'information qui est admissible? Y a-t-il un mécanisme de rétroaction du mode de décision aux arguments qui sont exprimés dans le débat? Dans le vote suivant le débat, est-il possible d'identifier qui vote pour ou contre? J'en parlerai la semaine prochaine, sans doute, ou en deux semaines, ou après les vacances. Comment la méthode de choisir les participants au débat peut-elle influer sur les arguments et les décisions? Y a-t-il un vote blanc avant le débat? Et après le débat, une fois prise la décision, les participants vont-ils se disperser pour ne plus jamais se rencontrer? Aujourd'hui, je voudrais soulever, dans les questions dont je n'ai pas déjà traité, celles qui me semblent les plus importantes. Faute de temps, je dois me limiter à deux sujets, d'ailleurs liés entre eux, le rôle de l'échange et de la production d'informations dans les décisions collectives et l'impact du nombre des membres du comité ou de l'Assemblée sur la qualité des délibérations et des décisions. En ce qui concerne l'information, il convient de distinguer trois aspects. Premièrement, de quelles informations les participants peuvent-ils tenir compte dans leur discussion? Deuxièmement, quelles informations les participants possèdent-ils avant le débat, le début de discussion? Et enfin, comment les informations peuvent-elles sortir des discussions? Bon, vous m'excuserez un petit moment là. Oui, la clé. C'est là. Bon. Alors, voilà donc les trois aspects, les trois rôles de l'information dans les décisions collectives. Et je commence par la première question qui peut sembler surprenante. Pourquoi, en effet, ne pas permettre aux débatteurs et aux décideurs de prendre compte de toute information effectivement ou potentiellement disponible? La seule raison possible d'imposer une limite semblerait provenir des coûts de la collecte et du traitement de l'information. Or, à la réflexion, il existe plusieurs contextes dans lesquels l'accès limité à l'information s'impose pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ces coûts. Et il convient de distinguer, je pense, deux cas. Dans le premier, le plus paradoxal, les agences sont supposées ne pas tenir compte d'informations qu'ils possèdent déjà. Dans le second, l'institution est établie de manière à les maintenir dans un état d'ignorance. Le premier cas est observé dans les jurys, sur lesquels je vous renvoie à ces deux travaux de synthèse, très informatifs et exhaustifs. Ils ne parlent que des jurys anglo-américains, et j'ignore s'il existe des travaux comparables concernant la France. J'ai fait une recherche, je n'ai rien trouvé. Ces deux articles citent un grand nombre de travaux qui discutent l'impact des témoignages irrécevables sur le jury, irrécevable en ce sens que le juge ordonne au juré de ne pas s'en tenir compte. Deux exemples typiques seraient l'information que l'inculpé a déjà été condamné pour un crime semblable à celui pour lequel il est accusé, et le témoignage par oui dire. Comme le montrent par exemple les travaux suivants, il semble que souvent l'instruction du juge au juré d'ignorer de telles informations, ou bien n'a aucun effet du tout, ou bien produit l'effet pervers de les faire compter plus quand elles sont présentées sans instruction. Avant de quitter ce thème assez mineur, j'aimerais porter votre attention sur une raison pour laquelle les instructions du juge d'ignorer les témoignages irrécevables sont susceptibles d'avoir cet effet pervers. Dans mon cours sur l'irrationalité l'année dernière, j'ai présenté la théorie de la réactance, exposée notamment dans ce livre. En simplifiant, on peut définir la réactance comme une réaction à un obstacle perçu à la liberté de l'agent, avec le but de restaurer cette liberté. Et pour prendre un exemple stylisé, supposons qu'un agent classe les objets A, B et C dans cet ordre de préférence et qu'une autre personne lui recommande de choisir A. Le mécanisme de la réactance induirait le choix de B. Et je pense que toutes les personnes ici qui ont des enfants ont observé ce cas de figure. On pourrait dire, en simplifiant encore une fois, que l'agent est prêt à sacrifier son but principal afin de maintenir son autonomie de choix. De manière semblable, même si les jurés comprennent le bien fondé des instructions du juge, ils semblent parfois les ignorer afin de garder leur liberté de délibération. Je passe maintenant à l'autre aspect de ce premier cas, à savoir la non-communication délibérée, ou mieux, la non-communication institutionnalisée de certaines informations aux décideurs. Là encore, on trouve les meilleurs exemples dans les jurys. Ainsi, selon la doctrine juridique dominante aux États-Unis, on ne doit fournir aux jurés dans les affaires civiles aucune des informations suivantes. Donc, on ne dira pas aux jurés 1. Qu'il est exclu qu'un plaignant qui porte 50% de la responsabilité dans ses pertes reçoive réparation, que l'accusé a une assurance responsabilité civile, que les parties ont pris leur disposition pour le paiement des frais d'avocat, que les dommages et intérêts ne seront pas nécessairement soumis à l'impôt, que les parties initiales en cause ont négocié un accord privé, que les offres d'accord négociées ont été rejetées, que des réparations ont été faites suite à un accident, et enfin que, selon la loi, les dommages et intérêts accordés par un jury dans un procès antitrust privé sont automatiquement triplés par la Cour. Et la raison de bander les yeux des jurés de cette manière se trouve surtout dans le risque que ces informations, si elles étaient disponibles, ne déforment le jugement. Considérons par exemple le deuxième élément de la liste, le fait que l'accusé est ou n'est pas une assurance responsabilité civile. Si les jurés savaient que le défendeur avait une assurance responsabilité civile, ils seraient plus enclins à accorder des dommages et intérêts excessifs. Si par contre ils savaient qu'il n'en avait pas, ils pourraient pécher dans le sens opposé. C'est seulement derrière un voile d'ignorance artificielle qu'ils seraient capables, selon la doctrine, de peser le pour et le contre de manière non biaisée. Mais comme le montrent pourtant ces auteurs, il est tout à fait possible, et même plausible, que derrière le voile d'ignorance, les jurés tendent plutôt à supposer le pire, en ce sens qu'ils basent leur décision sur l'hypothèse de non-assurance. Je me pencherai maintenant plus longuement sur une autre raison de créer un voile d'ignorance artificielle. En empêchant les acteurs d'identifier les options qui correspondent le mieux à leurs intérêts, on les forcera, selon l'expression de Leibniz, à se mettre à la place de tous. Il convient de distinguer ce voile d'ignorance non seulement du voile hypothétique qui est à la base de la théorie de John Rawls, mais également de ce qu'on pourrait appeler le voile réel, qui s'ensuit du fait que les conséquences à long terme des décisions présentes sont, par la nature des choses, souvent ensevelies dans l'incertitude. Et suivant Adrian Vermeul, je distinguerai quatre mécanismes susceptibles de créer un tel voile d'ignorance artificielle. Il convient de préciser que Vermeul ne prétend pas démontrer que les effets démontrer que les effets de ces mécanismes, tout en restant agnostiques concernant les intentions de leur créateur. Donc il s'agit donc de donner aux lois un caractère prospectif ou non rétroactif, donner aux lois un caractère général, donner aux lois un caractère durable, et enfin retarder la mise en œuvre effective des lois. Si l'on admettait les lois rétroactives, il serait plus facile à la majorité des législateurs d'adopter les lois qui les favorisent tout en nuisant à la minorité. Avec des lois prospectives, il est non seulement plus difficile d'identifier avec précision qui seront les gagnants et les perdants, mais aussi, de manière cruciale, les agents sociaux savent à quoi s'en tenir. Le caractère prospectif des lois assure donc à la fois l'ignorance dans les cas où celle-ci produit des effets bénéfiques et la certitude dans les cas où l'ignorance serait néfaste. Le caractère général des lois empêche les législateurs de conférer des avantages et d'imposer des peines à des individus ou à des catégories d'individus nommés. Lors de la création d'une nouvelle catégorie de crimes, par exemple, la généralité de la loi laisse ouverte la possibilité que les législateurs et leurs alliés puissent un jour être punis par elle. Et en conférant des bénéfices, le caractère général de la loi ouvre la possibilité que leurs adversaires puissent un jour en profiter. Il convient néanmoins, je pense, de tracer une distinction que ne mentionne pas Vermeul entre l'intention de la loi et son extension, en prenant ces termes dans leurs acceptations logiques. L'intention, c'est l'ensemble des caractères qui permet de définir un concept. L'extension, c'est l'ensemble des objets auxquels s'applique ce même concept. Ainsi, même si l'intention, dans ce sens, d'une loi, ne comporte que des caractères généraux, il est tout à fait possible qu'elle ne s'applique qu'à un seul objet, ce qui permet au législateur de contourner l'existence de la généralité. Ainsi, dans l'exemple suivant, quand l'Assemblée législative de l'État de New York créa en 1989 un programme spécial pour des enfants handicapés dans le village de Kiryas Joel, une enclave du judaïsme orthodoxe, ce programme fut cassé par la Cour suprême. 11 jours après la décision de la Cour, l'Assemblée vota une nouvelle loi qui permit l'établissement de programmes similaires dans toute communauté satisfaisant un certain nombre de critères tout à fait généraux. Or, cette loi, à son tour, fut cassée quand la Cour constata que parmi les 1146 communautés de l'État de New York, Kiryas Joel était la seule à remplir tous les critères. Ainsi, la généralité de la loi ne suffit pas pour en garantir l'impartialité. Si j'avais le temps, je pourrais faire une petite digression sur la loi sur le port du voile, mais je n'ai pas le temps. En ce qui concerne le critère de la durabilité des lois, il crée un voile d'ignorance, puisque les conséquences éloignées dans le temps sont normalement plus difficiles à vérifier que les conséquences immédiates. On trouve plusieurs belles illustrations de cette idée dans les débats de la Convention fédérale. Ici, j'en citerai deux, dont chacun implique Gouverneur Morris, gouverneur étant, comme je dois vous l'avoir déjà signalé, son nom de baptême. Vous vous rappelez sans doute que l'une des grandes questions de la Convention fédérale fut la représentation des États au Sénat. Les petits États, aussi bien que les grands, offrirent des arguments divers et brandirent même des menaces afin de faire triompher leurs propositions respectives. Dans une intervention particulièrement chargée le 5 juillet 1787, gouverneur Morris fit d'abord une menace, offrit ensuite un avertissement pour conclure sur un appel plus raisonné au voile d'ignorance. Les liens affectifs envers les États et l'importance accordée aux États ont empoisonné la vie de notre pays. Si nous ne pouvons pas anéantir ces serpents, nous pouvons peut-être leur arracher les crocs. Morris, c'est dans la troisième personne puisqu'il s'agit des notes de James Madison, souhaite que nos idées s'élèvent au niveau du véritable intérêt de l'homme au lieu d'être réduites aux limites étroites d'un endroit particulier. D'ailleurs, l'égoïsme ne fournit à pareil politique qu'une faible motivation. Qui peut dire si lui-même, et a fortiori ses enfants, habiteront l'an prochain tel ou tel État? Gouverneur Morris était un opportuniste invétéré. Comme le nota Medison, il fit flèche de tout bois, sans se soucier trop de la cohérence de ses arguments ou anticiper la possibilité qu'il puisse être retourné contre lui. Et c'est ce qui se produit ici, en effet, une semaine plus tard. Je vous rappelle que la Constitution américaine grave dans le marbre l'avantage des petits États sur les grands. Bien que le gouverneur Morris s'y opposa, comme on vient de le voir, il voulut qu'on créât pour la perpétuité un avantage des États fondateurs sur les nouveaux États. À sa proposition de ne pas admettre de nouveaux États dans l'Union que dans des conditions inégales qui garantiraient la domination perpétuelle des 13 États originaux, Roger Sherman répondit ainsi. « Nous travaillerons pour la postérité, pour nos enfants et nos petits-enfants, qui ne seront pas moins susceptibles d'être citoyens des nouveaux États de l'Ouest que les vieux États. » La Convention décida de ne pas prendre de mesures discriminatoires contre les nouveaux États. Il est difficile de dire quel était le poids de l'argument du vol d'ignorance dans cette décision. Comme le note Vermeul, le caractère durable des lois n'en garantit pas l'impartialité, sauf si l'horizon temporel des acteurs est suffisamment étendu. S'ils tendent à tenir compte des conséquences éloignées dans le temps de leurs actions, et si ces conséquences sont difficiles à déterminer avec précision, même des acteurs égoïstes adopteront une attitude impartiale. Dans le débat de la Convention, il s'agit d'un égoïsme familial, défini par les intérêts des descendants des délégués, et on peut donc évidemment questionner la force du souci de l'avenir quand il ne s'agit pas des intérêts de l'agent lui-même. Il accordera peut-être plus d'importance à ses propres intérêts immédiats qu'aux intérêts de ses descendants. Comme le note également Vermeul, on pourrait en principe éliminer la tentation du court terme en retardant la mise en œuvre effective de la loi. Il cite comme exemple le 27e amendement à la Constitution des États-Unis, ainsi que l'article 1.6 du même document, qui impose des délais obligatoires avant la mise en œuvre d'une loi portant soit sur le traitement des membres du Congrès, soit leur nomination aux fonctions civiles. Il aurait pu également citer le texte suivant, que cite Tocqueville. L'instabilité de nos lois est réellement un inconvénient très grave. Je pense que nous aurions dû y pourvoir en décidant qu'il y aurait toujours un intervalle d'une année entre la présentation d'une loi et le vote définitif. Elle serait ensuite discutée et votée sans qu'on puisse y en changer un mot, et si les circonstances semblaient exiger une plus prompte résolution, la proposition ne pourrait être adoptée à la simple majorité, mais à la majorité des deux tiers de l'une et de l'autre chambre. La suggestion faite dans une lettre privée de Jefferson ne fut pas adoptée. Les deux clauses citées par Vermeul sont d'une importance relativement mineure. Mais on peut facilement imaginer d'autres cas plus importants où un retard serait souhaitable. Si la Constitution imposait un délai de 5 ans avant qu'une nouvelle loi électorale ne soit effectivement mise en œuvre, les avantages et les inconvénients de la loi pour les partis politiques seraient cachés derrière un voile d'ignorance, du moins en partie. De manière semblable, on pourrait imposer un délai pour tout changement dans le statut de la Banque centrale ou de la Cour suprême pour que le gouvernement ne soit pas tenté de manipuler ces institutions à des fins partisanes. C'est un fait intéressant qu'à part les deux exemples américains, de telles procédures semblent n'exister nulle part. Il existe bien sûr d'importantes techniques pour ralentir ou retarder les décisions politiques, comme le bicaméralisme et dans certains pays la nécessité de faire adopter un amendement à la Constitution par deux parlements successifs. Or, dans la théorie constitutionnelle, ces procédures se justifient toujours par le besoin de donner du temps aux passions de se calmer, jamais par l'idée de jeter un vol d'ignorance sur le jeu des intérêts. De plus, il s'agit dans ces cas d'un intervalle entre la première proposition d'une loi et son adoption définitive, et non pas d'un délai entre son adoption et sa mise en œuvre. Avant de conclure sur ce premier point, je voudrais observer que l'idée d'un voile d'ignorance imposée aux membres du corps décédant peut aussi s'interpréter dans un sens très différent. Les participants au débat ont en effet la possibilité de se voiler les uns aux autres, comme ce fut le cas de l'aréopage athénien. Dans le texte classique, les procès de l'aréopage n'ont lieu que la nuit, dans les ténèbres, afin que l'on ne considère pas les orateurs, mais leurs discours. Et Montaigne, qui avait sans doute lu ce texte, écrit que ce vénérable sénat de l'aréopage jugeait de nuit, de peur que la vue des poursuivants corrompît sa justice. Il s'agit dans ce cas, bien sûr, d'un voile visuel, reflété également dans la représentation classique de la justice comme aveugle, bien que non pas sourde. On peut citer un exemple parallèle, le vote par cri et hurlement pratiqué à Sparte. Bien qu'il s'agisse ici de vote et non de débat, l'idée de fond, garantir l'impartialité des décisions, est la même. Et voilà ce qu'on peut en lire chez Plutarque. Une fois l'assemblée du peuple réunie, des hommes choisis s'enfermaient dans une maison voisine, d'où ils ne pouvaient ni voir ni être vus. Ils entendaient seulement les clameurs du peuple assemblé, car, comme en toute chose, c'était aux acclamations qu'on jugeait les concurrents. On ne les introduisait pas tous à la fois, chacun, suivant le rang que lui avait assigné le sort, traversait en silence l'assemblée. Les hommes s'enfermaient à la maison étaient munis de tablettes sur lesquelles ils notaient la force des acclamations obtenues par chaque candidat sans savoir de qui il s'agissait. Celui qui avait obtenu les acclamations les plus nourries et les plus fortes était déclaré élu. Et vous noterez la double protection contre la partialité que signale Plutarque dans les deux expressions que j'ai soulignées. Je ne connais pas d'analogue précis de ce voile visuel dans le contexte contemporain. On peut néanmoins trouver un analogue approximatif dans l'audition des musiciens d'orchestre. C'est maintenant une pratique courante dans tous les pays que je connais de faire jouer les candidats ou candidates derrière un écran pour que les décideurs ne puissent pas savoir justement si ce sont des candidats ou des candidates. Comme le montrent ces auteurs, l'embauche de musiciennes a connu un net accroissement aux États-Unis à la suite de l'introduction de ce voile visuel. Mais je n'ai pas pu vérifier comment est déterminé l'ordre dans lequel les candidats et candidates doivent se présenter. Je passe maintenant à la deuxième des questions distinguées au début de cette conférence. Quelles informations les participants possèdent-ils avant le début des discussions ? Il s'agit là d'un aspect de l'influence de la méthode de sélection ou d'élection des participants sur la teneur de la discussion et la qualité de la décision. Comme on va le voir, il n'y a pas de principe universel. La procédure optimale pour choisir les jurés n'est pas forcément optimale pour choisir les membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale ou les députés d'une assemblée législative ou constituante. La sélection des jurés pose des problèmes complexes et exhibe beaucoup de variations intéressantes. Au début, dans l'Angleterre du XIIIe siècle, les jurés étaient des témoins, pas forcément du crime lui-même, mais du moins du caractère de l'accusé. Puisqu'ils étaient choisis parmi ses voisins, ils devaient le connaître. Autrement dit, ils étaient choisis en fonction de l'information très spécifique qu'ils pourraient appliquer au cas soumis à leur jugement. En Angleterre également, pendant 5 siècles, jusqu'en 1870, les membres de groupes minoritaires, tels les Juifs, les Allemands et les Italiens, avaient le droit d'être jugés par un jury comportant une moitié d'étrangers. Pas forcément de leur nationalité ou de leur ayant les mêmes ancêtres. Plus tard, en Angleterre et ailleurs, les jurés étaient choisis en fonction de leur information générale concernant la situation de l'accusé, sans forcément le connaître personnellement. Ainsi, aux États-Unis, on décida, avant l'indépendance du pays, qu'un accusé de race indienne avait le droit que des individus appartenant à sa race soient dans le jury. De manière plus générale, l'accusé avait le droit d'être jugé par ses pairs, idée qui comporte surtout la connotation de statut social. Et plus tard encore, le critère de sélection dominant fut que le jury devait refléter fidèlement la composition de la communauté. Ainsi, aux États-Unis, même un homme pourrait demander la cassation du verdict si un jury ne comportait pas de femmes. Et plus récemment encore, la présence de femmes dans les jurys fut réclamée, comme on l'a vu dans un cours antérieur, comme un droit de celle-ci plutôt que de l'accusé. Aujourd'hui, il semble que le principe de choisir un jury qui soit un échantillon représentatif de la communauté tende à l'emporter sur le principe de choisir le jury parmi les pairs de l'accusé. Autrement dit, on cherche la diversité des jurés plutôt que la similarité entre l'accusé et les jurés. Et comme l'a montré Scott Page dans un livre important, la diversité d'un groupe peut le rendre capable de prendre une décision collective qui est supérieure à celle qui serait prise individuellement par le plus compétent d'entre eux. Si chaque membre du jury apporte soit des informations distinctes, soit des perspectives distinctes, l'agrégation de ces éléments est susceptible d'améliorer le processus de décision. Et je vous renvoie sur ce point d'abord à cet article. Et puis, je citerai deux textes bien connus d'Aristote qui propose ou discute la même idée. Il est possible que de nombreux individus, dont aucun n'est un homme vertueux, quand ils s'ensemblent, soient meilleurs que ceux qui sont meilleurs individuellement, mais peu nombreux. Et encore, toute cité est composée d'une qualité et d'une quantité. Par qualité, j'entends liberté, richesse, éducation, naissance illustre, et par quantité, la prépondérance numérique. Mais il est possible que la qualité appartienne à l'une des parties de la cité et la quantité à une autre, si les gens de basse naissance sont plus nombreux que les gens bien nés ou les gens modestes que les riches, sans pourtant que leur supériorité quantitative dépasse, c'est-à-dire compense, leur infériorité qualitative. C'est pourquoi il faut juger des deux aspects l'un par rapport à l'autre. Là où la masse des gens modestes dépasse la proportion que nous avons dite, c'est-à-dire dans une proportion telle que se trouve contrebalancée leur infériorité en qualité, dans ce cas, il y a naturellement une démocratie. Ce qu'il entend dire, c'est que dans ce cas, la démocratie prend de meilleures décisions, c'est-à-dire une proposition normative, donc naturellement, doit être lue ici dans ce sens normatif plutôt que prédictif ou explicatif. Je reviendrai sur ce texte dans un instant. Pour l'instant, je voudrais seulement signaler que le nombre et la diversité sont deux sources distinctes de sagesse collective. Souvent, bien sûr, quand on augmente le nombre de participants, on augmente également leur diversité. Or, même pour un nombre constant de jurés, il est possible d'améliorer la qualité de leurs décisions en s'assurant qu'ils viennent de milieux socio-culturels divers et comprennent différentes classes d'âge, ainsi que des membres des deux sexes. Il convient de noter que pour obtenir un échantillon représentatif, on choisit les jurés par le tirage au sort. Et cette méthode a également l'avantage de protéger l'anonymat des jurés et de les rendre moins sensibles aux menaces et aux subornations. Ils sortent un instant de la foule pour y rentrer ensuite. C'est un fait remarquable, à mon avis, que la même procédure qui réduit le risque d'un juré corrompu a également pour effet de rendre ses délibérations plus efficaces. La diversité et l'anonymat combinés, tous les deux obtenus par le tirage au sort, semblent donc constituer une sorte de situation délibérative idéale pour utiliser le langage de Jürgen Habermas. Et il convient également de noter qu'aujourd'hui, on ne sélectionne quasiment jamais les jurés pour leurs compétences individuelles, du moins dans les affaires criminelles. Dans les affaires civiles, souvent très techniques, l'usage de jurés d'experts est assez fréquent dans certains pays. Et si nous remontons quelques siècles, nous observons pourtant une situation plus complexe, comme le montre cet excellent article. Les détails qu'il propose sont merveilleux, mais trop compliqués pour que je puisse les expliquer tous. Je vous signale seulement qu'en Angleterre, au XVIIe siècle, seuls les propriétaires pouvaient être jurés. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, la raison n'en était pas de favoriser les riches, mais d'empêcher que le jury ne se compose uniquement de pauvres. Si tout le monde pouvait appartenir au jury, et si, comme c'était plausible, personne ne désirait le faire, les riches paieraient pour se faire exempter. Il serait très intéressant, à mon avis, de comparer systématiquement les conditions qui ont été utilisées afin d'exclure certaines catégories d'individus, des jurys d'une part et des sélections de l'autre. Mais c'est une tâche que, faute de temps, je ne saurais entreprendre ici. La diversité aussi est souvent citée comme un desideratum dans les conseils des gouverneurs des banques centrales, comme par exemple dans ces deux articles. Sans entrer dans le détail, le risque le plus souvent cité est celui du conformisme, dont je vous ai longuement parlé dans un cours précédent. Il semble notamment que ce phénomène fut assez important quand Alan Greenspan était président du Federal Reserve Board et poussa aux décisions dont on mesure aujourd'hui l'effet désastreux. Blinder suggère que pour s'en prévenir, il serait bon de faire entrer dans ses conseils des personnes qui ne sont pas de banquiers professionnels, mais des hommes et des femmes d'affaires ayant une expérience pratique plutôt que théorique. Et il me semble pertinent à cet égard de citer la pratique française de faire entrer au Conseil constitutionnel des personnes sans formation de juriste, comme la sociologue Dominique Schnapper. Dans ces trois cas, les jurys, les conseils des banques centrales et les cours constitutionnels, le mécanisme précis par lequel la diversité améliore la qualité des discussions et des décisions est assez difficile à cerner. Dans son livre, Scott Page propose des modèles formels qui démontrent de manière tout à fait explicite et rigoureuse que sous des conditions précises, la diversité domine la compétence. En ce sens, que les décisions d'un comité dont les membres sont choisis au hasard, dans une population plus grande, dépassent en qualité celles que prendrait un comité de taille égale composé des individus les plus compétents dans cette même population. C'est quand même un résultat étonnant. Mais dans la pratique, il sera, du moins pour l'instant, difficile de vérifier que les conditions du théorème obtiennent. Et de plus, il est possible que l'effet le plus important de la diversité soit de contrecarrer la tendance spontanée des groupes vers le conformisme plutôt que d'enrichir les informations et les perspectives des membres. Autrement dit, le mécanisme relèverait du domaine des émotions plutôt que des cognitions. À ce propos, je vous signale que dans les expériences de H, dont je vous ai parlé il y a quelque temps, l'adhésion au jugement majoritaire baisse très rapidement lorsqu'il se trouve, parmi les complices de l'expérimentateur, une seule personne a exprimé une opinion dissidente. Donc cette seule personne a un impact disproportionné par rapport à la simple valeur d'information de son opinion. Et on parlait de l'impact de la sélection des membres des comités sur la qualité de leurs délibérations et décisions. Je passe maintenant à l'impact du mode d'élection dans les assemblées. Il sera utile de comparer encore une fois les assemblées législatives et constituantes. Parmi celles-ci, je me limite à celles dont la seule tâche est de voter ou de proposer une constitution, comme la Convention fédérale, ce qui exclut par contre la première constituante française et les très nombreuses autres assemblées qui ont combiné tâches législatives et constituantes. Pour l'analyse de la spécificité de ces assemblées mixtes, je vous recommande d'ailleurs le livre remarquable d'Arnaud Le Pilouet, Les pouvoirs non constituants des assemblées constituantes. Pour les sélections des assemblées, on a le choix, en simplifiant, entre le vote majoritaire et le scrutin proportionnel. Avec des exceptions assez mineures, ces deux systèmes tendent à produire des régimes bipartites et multipartites respectivement. Puisqu'un régime multipartite éprouve souvent des difficultés à produire un gouvernement stable, le critère de gouvernabilité joue donc en faveur du scrutin majoritaire. Bien que ce système comporte des coûts, notamment l'absence de représentation des minorités, on a souvent argué qu'il est néanmoins supérieur au régime multipartite. Or, pour les élections aux assemblées constituantes, le critère de gouvernabilité n'a aucune pertinence. À ces moments fondateurs, il est plus important de donner une voix à une large pluralité de groupes pour qu'on puisse tenir compte de leur situation et profiter de leurs connaissances. Il semble en effet que dans les régimes politiques modernes, le système majoritaire ne soit quasiment jamais adopté pour les élections aux assemblées constituantes, même si par la suite, il peut être adopté pour les élections législatives. Il convient de distinguer ici deux effets de la diversité. D'une part, elle peut améliorer la connaissance des problèmes. Comme le dit le proverbe, nul ne sait mieux que l'âne ou le bât le blesse. Pour remédier à un problème, il faut d'abord le connaître et personne ne le connaît mieux que ceux qui en souffrent. D'autre part, la diversité peut faciliter la découverte de solutions et assurer la représentation effective des intérêts. En suivant Scott Page, on pourrait affirmer que l'échange d'idées entre groupes différents, dont chacun peut apporter une perspective unique, permettra peut-être de fabriquer un meilleur bât. Le bât qui blesse. On peut lire dans la première perspective la lettre de Louis XVI expliquant le système d'élection aux États généraux qu'il imposa au clergé. Sa Majesté a reconnu qu'au moyen des assemblées graduelles ordonnées dans toute la France pour la représentation du tiers-État, il aurait ainsi une sorte de communication avec tous les habitants de son royaume et qu'elle se rapprocherait de leurs besoins et de leurs vœux d'une manière plus sûre et plus immédiate. Maintenant, la phrase cruciale. Sa Majesté a tâché de remplir encore cet objet particulier de son inquiétude en appelant aux assemblées du clergé tous les bons et utiles pasteurs qui s'occupent de près et journellement de l'indigence et de l'assistance du peuple, y connaissent et qui connaissent plus intimement ses maux et ses appréhensions. Je note entre parenthèses que cette intention louable se retournait contre Louis XVI, puisque le bas clergé fut, comme vous le savez, l'élément décisif dans la transformation des États généraux en Assemblée nationale. Mais ça, il ne pouvait pas, sans doute, le prédire. Donc, même si le peuple des campagnes ne devait pas être directement représenté aux États généraux, les curés y seraient comme ses vicaires, si vous me permettez cette inversion du sens traditionnel de ce mot. Pour un autre exemple de l'importance de l'expérience immédiate des constituants, je vais citer un livre célèbre sur la Convention fédérale par Charles Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. Livre trop souvent lu comme affirmant une thèse quasi marxiste, selon laquelle les intérêts économiques des constituants furent le facteur déterminant dans leur vote de la Convention. Cette thèse en elle-même n'est pas forcément fausse. Il a été défendu récemment avec vigueur dans ce livre, et j'en parlerai longuement dans mon cours de l'année prochaine. Or, le passage suivant du livre de Beard, ainsi que le commentaire qu'en fait Forrest MacDonald, démontre nettement que Beard avait dans l'esprit l'expérience des délégués plutôt que leurs intérêts. Donc, selon Beard, le but de cette recherche n'est pas évidemment de montrer que la Convention était constituée pour les bénéfices personnels de ses membres. Loin de là. Le seul point examiné ici est le suivant. Représentait-il des groupes distincts dont il comprenait et ressentait les intérêts économiques concrètement et nettement à travers leur propre expérience de possesseurs de droits de propriété similaires, ou travaillait-il simplement en étant guidé par des principes abstraits de science politique, comme l'étaient par exemple les constituants français. Et Forrest MacDonald commente, c'est-à-dire que Beard ne fait aucune distinction entre, disons, un planteur qui avait une terre d'une valeur de 20 000 $ et incidemment quelques dollars en titres, et un financier qui avait placé la plupart de ses ressources en titres. Chacun d'eux est classé comme détenteur de titres et aucun poids n'est attribué à l'importance relative des titres de chacun. Cette pratique est en accord avec le fait que Beard se concentre explicitement sur l'importance de la détention de différentes formes de propriété comme donnant aux délégués une expérience des tracas causés par chacune de ces formes plutôt que comme les conduisant à agir de certaines façons par intérêt personnel. Comme je viens de l'observer, il est difficile de faire une démonstration empirique de la pertinence de la thèse ou du théorème de Scott Page. Ce théorème est certes plausible d'un point de vue intuitif, mais l'on pourrait également affirmer la plausibilité intuitive de la thèse opposée. Selon un proverbe, deux avis valent mieux qu'un, mais selon un autre, trop de cuisiniers gâtent la sauce. La thèse de Page se heurte en outre au problème suivant, souligné par Page lui-même. Pour l'expliquer, je vous rappelle que chaque participant à une décision collective agit en fonction de préférences dérivées qui sont fonction de ses préférences fondamentales et de ses croyances causales. Le théorème de Page présuppose que les participants ont les mêmes préférences fondamentales et que la fin de la discussion est de trouver le meilleur moyen de la réaliser, de les réaliser. Dans certaines conditions, comme je viens de le dire, cette tâche purement cognitive est en effet facilitée par la diversité des participants. Or, comme on le sait depuis longtemps, et comme nous le rappelle Page, trouver un accord sur les moyens peut être plus difficile face à une diversité des préférences fondamentales. Comme le démontre notamment le paradoxe de Condorcet concernant les majorités cycliques, l'idée même du meilleur moyen de réaliser la volonté générale n'a pas de sens si celle-ci, la volonté générale, n'existe pas. En fait, la diversité des préférences fondamentales a l'effet de rendre ce paradoxe, la réalisation de ce paradoxe, plus probable. On sait que le paradoxe ne se produit pas si les préférences des participants sont unimodales dans le sens suivant. Il est possible de ranger les options dans un ordre unidimensionnel tel que pour chaque individu, il existe un optimum avec la propriété que plus on s'en éloigne dans un sens ou dans l'autre, moins il en est content. Et pour un exemple et un contre-exemple, on va prendre une communauté qui comporte trois groupes de taille égale et qui doit décider du niveau de l'impôt foncier nécessaire pour financer les écoles de la communauté. Et dans une première hypothèse, on va considérer la situation suivante. Donc, il y a trois groupes de taille égale, les seniors, les jeunes couples sans enfants et les parents. Ils doivent donc décider le niveau d'impôt nécessaire pour financer les écoles. Il y a trois options, les écoles de... bas niveau, de moyen et de haut niveau. Et là, vous voyez l'utilité que tirent les trois groupes des écoles de qualité différente. Pour les seniors, moins ils paient d'impôts, mieux c'est. Pour les parents, meilleures sont les écoles, mieux c'est. Mais pour les jeunes couples qui comptent avoir des enfants dans le futur, mais dont l'économie est précaire, ils préfèrent une école moyenne à une école de bas niveau et une mauvaise à une excellente. Donc pour les seniors, mieux. Ils préfèrent les mauvaises écoles aux moyennes et les moyennes aux excellentes. Pour les parents, c'est l'inverse. Pour les jeunes couples sans enfants, c'est. Ces préférences sont unimodales et elles engendrent des préférences collectives cohérentes. Je m'excuse. Il y a un problème avec les accents. Je vais lire le texte au-dessous du diagramme. Le résultat du vote est que M est collectivement préféré à B, qui est collectivement préféré à H. Puisque les parents et les jeunes préfèrent M à B, et les vieux et les jeunes préfèrent B à H, et les vieux et les jeunes préfèrent également M à H. Donc il y aura ces trois majorités qui sont cohérentes. Et la décision sociale sera donc M. Mais dans une deuxième hypothèse, on introduit une autre dimension de différenciation en remplaçant le groupe des seniors par un groupe de parents qu'on peut appeler snob, désirés de mettre leurs enfants dans une école privée. Alors, Ah, c'est, oui, c'est dans ce sens-là. Alors, vous avez là des préférences non unimodales, puisque pour les snobs, quand on se déplace vers la droite, leur préférence, leur utilité baisse, puis peut remonter. Donc, il n'y a pas d'ordre unidimensionnel qui produise des préférences unimodales. Et en fait, on constate que dans ce cas, on a un cycle. Voilà. Les snobs, les jeunes, préfèrent B à H. Les snobs et les parents préfèrent H à M. Et les parents et les jeunes préfèrent M à B. Donc, on tourne un cycle. Donc, puisqu'il y a des préférences non unimodales, il n'y a pas de préférence collective cohérente. Autrement dit, le paradoxe de Condorcet est en effet réalisé. Évidemment, un exemple ne prouve rien. Mais l'exemple suggère que la plus grande diversité des préférences dans le second cas, où les groupes se distinguent non seulement par l'âge, mais également par leur attitude, est responsable du caractère cyclique des majorités. Et dans un passé assez lointain, quand j'étais jeune et naïf, j'ai suggéré que les délibérations, les discussions sont capables d'éliminer toute diversité dans les préférences fondamentales et de produire ainsi des décisions unanimes, en supposant aussi, bien sûr, l'accord concernant les croyances causales. Mais c'est de toute évidence une idée naïve et de plus inutile, car il suffit de défendre une thèse beaucoup plus faible, à savoir la tendance des délibérations à produire des préférences unimodales. Ainsi, les snobs du deuxième exemple pourraient être persuadés par la discussion que la qualité de l'éducation de leurs enfants doit l'emporter sur leur aspiration élitiste. Ils ne seraient pas d'accord avec les seniors, mais ce désaccord ne produirait pas une impasse de la décision. Et on trouve une discussion très instructive et informative de l'impact des délibérations sur la forme des préférences dans cet article, qui circule sur Internet depuis 8 ans, qui est toujours non publié, mais qu'il est facile de trouver et que je vous recommande si ce sujet vous intéresse. Comme vous l'aurez constaté, l'interaction entre délibération et diversité dans les décisions collectives est assez complexe. D'une part, les délibérations peuvent faire bon usage de la diversité cognitive en intégrant des informations dispersées chez les participants. D'autre part, les délibérations sont susceptibles de réduire la diversité nocive des préférences, si l'on peut dire, en les filtrant ou en les blanchissant par l'impératif de produire des raisons impartiales. Il convient de noter ici que cet impératif ne touche pas forcément les convictions intimes des participants. Celui qui craint d'être exposé comme snob ne change pas forcément ses attitudes, mais il hésitera peut-être à les exprimer. Et à cet égard, il est évidemment essentiel que le vote qui suit soit public, car l'hypocrisie ne produirait pas sa force civilisatrice si, comme dans le Parlement italien jusqu'en 1986, on pouvait parler en faveur d'une motion et ensuite voter contre dans son scrutin secret. Je conclue, je ne sais pas si j'ai le temps d'y arriver jusqu'à la fin, mais presque. Je passe maintenant à la troisième des questions que j'ai mentionnées au début de cette conférence. Comment les informations peuvent-elles sortir des discussions? Ainsi formulée, la question n'est pas très précise. Je voudrais donc la reformuler de la manière suivante. Dans un comité ou une assemblée, quelles sont les incitations pour les membres à s'informer, soit en écoutant leur pair, soit en cherchant des informations hors du comité ou de l'assemblée? Et pour l'analyse de ce problème, je ferai appel au texte d'Aristote, déjà cité, au théorème du jury proposé par Condorcet, et aux objections que fit Bentham à la pertinence des analyses de Condorcet. Il me semble qu'Aristote et Condorcet, dans leurs analyses de l'impact du nombre des délibérants sur la qualité des décisions, font une hypothèse implicite et mal fondée concernant le caractère nécessairement exogène du niveau de compétence et d'information des participants. Et je vais m'expliquer. Dans ce premier cas de figure, on suppose les assemblées composées de votants ayant une égale justesse d'esprit et des lumières égales, nous supposons qu'aucun des votants n'a influence sur les voix des autres et que tous opinent de bonne foi. Il faut supposer de plus que chaque votant ait une probabilité supérieure à 50% d'émettre un jugement correct sur une question binaire, innocent ou coupable, par exemple. Le théorème du jury affirme alors qu'une décision faite à la majorité s'approche aussi près qu'on veut de la vérité si l'on inclut dans la décision un nombre suffisamment grand de votants. C'est pas très bien formulé, ça. La probabilité que la décision de la majorité soit correcte s'approche aussi près qu'on veut de 100% si l'on inclut dans la décision un nombre suffisamment grand de votants. Condorcet fut tout à fait conscient, bien sûr, du manque de réalisme de ce modèle, qui lui sert seulement de point de départ à des considérations plus concrètes. Il note en particulier que lorsqu'on augmente le nombre des membres, l'hypothèse de l'égalité des membres perd sa plausibilité. Et dans ce deuxième cas de figure, on tient compte des changements que peut apporter dans les résultats abstraits l'inégalité de lumière ou de justesse d'esprit des votants dans une seule et même assemblée. Et Condorcet parle notamment des assemblées très nombreuses et composées de manière qu'à mesure que le nombre des votants augmente, on soit obligé d'y en admettre dont la probabilité est très petite. Il s'agit, pour ainsi dire, d'augmenter le nombre des membres en descendant l'échelle des compétences naturelles. Sans entrer dans le détail, qui devient vite assez compliqué, insistons seulement sur l'idée d'une inégalité ou d'une hiérarchie naturelle de compétences et de lumière. Et Aristote reprend la même idée, ou exprime déjà la même idée, dans le texte cité. Et la raison pour laquelle la compétence moyenne des membres diminue quand augmentent leurs membres est tout simplement qu'il faut descendre dans la hiérarchie et, pour ainsi dire, racler le fond du tiroir. Il revient à Bentham, je pense, d'avoir observé que cette même corrélation négative entre le nombre et la compétence va se produire même en supposant que les lumières naturelles des citoyens sont identiques. L'argument se trouve dans deux travaux, écrits en français vers la fin de 1788, avec le but d'influencer sur l'organisation des États généraux et notamment d'en réduire le nombre de délégués. J'ignore si Bentham avait lu l'essai de Condorcet, publié 3 ans avant, mais il me semble qu'il a dû le lire, étant donné d'une part la notoriété de Condorcet et d'autre part les deux affirmations suivantes qu'il s'efforce ensuite pour réfuter. Il est certain qu'avec un nombre plus grand s'accroît la probabilité d'une décision sage plutôt que mauvaise, et avec le nombre de membres s'accroît la chance de sagesse. Autant de membres, autant de sources de lumière. Je pense que l'usage du mot-clé « probabilité » suggère une influence directe, une lecture directe de Condorcet. Pour invalider ces propositions, Bentham fait appel aux moindres incitations à s'informer, à même être présent dans une chambre plus grande. Donc, en réponse à la première observation, il dit « plus le nombre des votants est grand, moindre est le poids et la valeur de chaque vote, moindre le prix aux yeux du votant, moins il se soucie d'en assurer la conformité au vrai but, et même de le donner du tout. » Et en réponse à la deuxième proposition, la diminution que cette même cause, le même nombre plus grand de votants, amène dans la force des motifs nécessaires pour faire sortir ces lumières, compense cet avantage. Ainsi, Bentham a anticipé de 200 ans un paradoxe célèbre, celui de Grossman-Stiglitz, sur l'impossibilité d'un marché efficient dans la production d'informations. Il s'agit du problème du passager libre, ou, si vous voulez, du passager clandestin, qui se pose pour la raison suivante. Étant donné le fait que le coût de production de l'information incombe uniquement à celui qui la produit, tandis que les bénéfices de l'information sont répartis entre tous les membres du groupe, il y a une tendance inévitable à la production sous-optimale d'informations, tendance d'autant plus forte que le groupe est nombreux. Et on a appliqué ce théorème, par exemple, cette idée au théorème du jury. Et je voudrais simplement dépasser un peu le temps, juste 2 minutes, pour tirer une conclusion concernant Condorcet et Bentham. Dans le modèle de ces auteurs, la qualité, disons, intrinsèque, la compétence naturelle des membres du comité est supposée la même pour tous. Mais dans un modèle plus général, il faudrait tenir compte de deux mécanismes distincts. Supposons, en revenant sur la discussion du séminaire de lundi, que la compétence soit une fonction, premièrement, de la capacité de tirer la bonne conclusion des informations disponibles, et deuxièmement, de la quantité d'informations dont on dispose. Avec l'élargissement du groupe, on peut s'attendre, avec Condorcet, à ce que la compétence baisse selon la première dimension, et avec Bentham, à ce qu'elle baisse également selon la deuxième. Ainsi, dans un exemple stylisé, supposons que nous avons affaire à 7 personnes qui peuvent former 3 groupes distincts. Dans le schéma, les chiffres entre parenthèses correspondent aux probabilités des membres de former un jugement correct. Et on constate que les membres F et G sont moins compétents que les membres du groupe 1. On constate également que lorsque le groupe 1 est transformé dans le groupe 3 par l'addition de ces deux membres, il se produit 2 effets distincts. D'une part, il y a l'effet Condorcet, l'addition de membres moins capables de tirer les bonnes conclusions de l'information disponible réduit la probabilité que l'opinion de la majorité soit correcte. D'autre part, il y a l'effet Bentham, la compétence de chaque membre diminue puisque la plus grande taille du groupe dilue l'incitation à s'informer. Et je suis en train d'écrire un article sur ce sujet avec un collègue norvégien qui est économiste mathématicien. Peut-être qu'il va en sortir quelque chose. Bon, je vous remercie de votre attention.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.